Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 13. Luc chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Et voici, ce même jour, c'est-à-dire le premier jour, le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils l'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, » qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. » Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquerait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon !» Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté et emmené pour être crucifié, il avait cité, nous lisons cela en Matthieu 26, il avait cité le prophète Zacharie 13, verset 7, « Je frapperai le berger » et les brebis du troupeau seront dispersées. Et voilà le jour de la résurrection. On retrouve ces deux disciples qui partent, qui quittent Jérusalem découragés, premier mot pour les enfants. Bien sûr, ils ont entendu le témoignage des femmes qui leur ont parlé du tombeau vide. Et de la rencontre avec les anges. Mais les voilà découragés. découragés, ne sachant pas ce qu'il fallait penser de tout cela. Et cette déception, après cette rencontre que nous allons voir ce matin, va être transformée en courage, en zèle. Ses disciples vont devenir ceux qui, par l'annonce de l'Évangile, ont bouleversé le monde, comme le dit l'Acte chapitre 17. Ils allaient connaître un cœur brûlé, brûlant d'amour et de zèle pour le Seigneur Jésus-Christ, être rempli de joie et d'espérance. Et une seule raison pour cela, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, le Seigneur, ici, va se révéler. Et nous allons voir cela en trois points. Le premier point, c'est que Jésus se révèle comme étant le compagnon de route, deuxième mot sur la liste. Le compagnon de route qui est là pour encourager ses disciples. Voici ce même jour, verset 13, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. On peut imaginer la discussion de ses disciples. Ils parlaient de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ils parlaient ensuite de la condamnation injuste et de la crucifixion. Ils essayaient de comprendre pourquoi ces choses ont pu arriver. Et cela se résume au verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et le Seigneur les rejoint, verset 15, pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et on a ici peut-être le récit le plus instructif après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ces deux disciples qui partent de Jérusalem, qui est pour eux la scène de l'échec. Nous espérions, et voilà trois jours que ces choses viennent d'arriver. Et le Seigneur s'approche et fait route avec eux. Pourquoi ? Pour trois raisons. Pour encourager, il vient ensuite pour enseigner, corriger leur ignorance, cette ignorance qui les a amenés à ce point de désespoir. Elle vient aussi pour se révéler comme le Seigneur ressuscité et victorieux. Mais donc, ici, le premier point, c'est qu'il est ce compagnon de route qui vient les encourager. Et ce passage montre que le Seigneur prend plaisir, troisième mot pour les enfants, il prend plaisir à marcher avec ses disciples, à être leur compagnon de route, à encourager les siens. Et si c'est vrai pour le premier jour de la résurrection, c'est encore vrai aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas changé. Il reste le berger des brebis. Il prend soin de ses brebis, de ceux qui lui appartiennent, en particulier des plus faibles. Les disciples ici ne sont pas des héros de la foi. Ce ne sont pas des hommes avec des responsabilités d'encadrement d'une assemblée. Non, ce sont des croyants faibles, des croyants qui ont besoin d'aide. Et Jésus va les reprendre au verset 25. « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Combien ils nous ressemblent ? Combien ils nous ressemblent ? Nous sommes lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, tout ce que dit la parole. Mais là, encore une fois, dans ce jour de victoire, ce jour de résurrection, Jésus va prendre le temps, comme il a pris le temps de s'adresser à Marie de Magdala, il prend le temps de s'adresser à ses deux disciples qui sont faibles, qui ont besoin d'aide. Mais cela aussi montre que la communion avec Christ ne dépend pas de nos mérites, ne dépend pas de ce que nous pouvons comprendre, mais dépend de la compassion et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un réconfort pour nous. Le Seigneur prend plaisir à marcher avec les siens. Il a marché avec les disciples quand il était sur terre. Il marche ici avec les deux. Et aujourd'hui, par l'Esprit Saint, quatrième mot pour les enfants, par l'Esprit Saint, il marche avec ses enfants. Nous avons lu ce passage en Jean chapitre 14, où le Seigneur a promis la venue de l'Esprit, et qui, cet Esprit qui allait enseigner les disciples, versets 16 et suivants, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez et il demeure en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » L'Esprit, mais par l'Esprit, c'est Christ lui-même qui vient habiter dans le cœur des croyants, dans le cœur de ses enfants. Jésus souligne que le croyant n'est jamais et ne sera jamais seul. Par l'Esprit, Jésus vient aujourd'hui marcher avec son peuple, avec les siens. Il vient les instruire, les corriger. Jésus est avec les siens par la présence de l'Esprit. Nous marchons avec Christ par la foi et par l'Esprit. Bien sûr, cela ne nous épargne pas les difficultés que l'on peut connaître dans ce monde, mais cela apporte la différence. Par exemple, dans des moments de crainte, ou des moments de difficulté, nous pouvons citer par exemple le psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et Ésaïe 43, versets 2 et 3, nous dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je suis avec toi. C'est la réalité, c'est la promesse pour tous les enfants de Dieu. C'est la réalité de tous ceux qui sont à Christ. Jésus marche avec nous. Nous ne serons jamais seuls, cinquième mot pour les enfants. Nous ne serons jamais seuls. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit ceci au chapitre 13, à la fin du verset 5 et le début du verset 6, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?»« Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Voilà la première réalité que le Seigneur veut souligner ici. Il marche, il est ce compagnon de route qui vient et qui encourage son peuple, qui encourage les disciples. Et il le fait aujourd'hui par la présence de l'Esprit Saint qui est là. Nous ne sommes pas seuls. La deuxième chose, le deuxième point que nous voyons aussi, c'est que Jésus est celui qui enseigne. Il est l'enseignant, sixième mot. Jésus marche avec les disciples pour les encourager, mais aussi pour les enseigner. Et il commence par poser une question. Et dans la plupart des rencontres que nous avons vues, c'est ce qu'il fait. Il pose une question. Verset 17, il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur répondit-il. Alors, le texte dit que les disciples n'ont pas été empêchés de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ sans nous en donner plus de détails, mais ils étaient empêchés de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus commence par ce dialogue, ces questions. Et c'est la même chose encore une fois aujourd'hui. Combien de fois l'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, parle à notre cœur et dialogue. Nous avons lu tout à l'heure le psaume 42. Mais l'Esprit parle à notre cœur, il nous pousse à réfléchir, septième mot pour les enfants, à réfléchir bibliquement sur nos circonstances. Pourquoi, par exemple dans le psaume 42, pourquoi t'as battu mon âme ? Espère en Dieu, car il est mon salut et mon Dieu. Et c'est la même chose pour nous encore aujourd'hui. L'Esprit dialogue avec notre esprit et nous pousse à réfléchir bibliquement sur nos circonstances. Mais voilà, Jésus pose des questions. Commence ce dialogue avec les disciples. Et il pose des questions. Et voilà leur réponse à partir du verset 19. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ils considèrent Jésus comme quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'extraordinaire. Ce qu'ils disent est vrai. Mais notre traduction, dans la traduction, il manque quelque chose. Parce qu'il précise en grec ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un homme prophète. C'était un homme, c'est-à-dire quelqu'un comme nous. C'est-à-dire quelqu'un, il était des nôtres. Et cela souligne l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pleinement homme. Il n'est pas une apparition, une théophanie comme dans l'Ancien Testament. Non, il est pleinement homme. Il était prophète, il a déclaré la parole de Dieu. Et ses disciples en sont conscients. Il l'a fait avec puissance, à la fois en parole et en acte. Et nous rappelons qu'à plusieurs reprises, la foule était émerveillée par l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, en Matthieu 7, verset 29, il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Et la foule était étonnée par cela. Bien sûr, les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a accomplis ont manifesté la vérité et la puissance de Dieu pour le salut. Et ses disciples étaient arrivés à ce point, mais ils continuent de parler de leur déception. Ils parlent de ce qui est arrivé, de la crucifixion, et ils disent, verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Le terme « délivrer » ici est parfois traduit par « apporter la rédemption » dans certaines versions. Mais le terme, on l'utilise souvent, surtout pour parler du sang de Christ qui a été versé en rançon pour payer la dette de nos péchés. Il a versé son sang pour la délivrance, pour la rédemption de son peuple. Mais voilà, ses disciples sont incapables, huitième mot, incapables de faire le lien entre la mort de Christ et son œuvre de délivrance, son œuvre de rédemption. Même s'ils utilisent le terme, même s'ils utilisent le bon langage, ils sont incapables de voir que le lien entre la mort du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre de rédemption. « Bien sûr, ensuite, ils parlent de ces informations surprenantes qu'ils ont eues de la part des femmes, mais cela ne collait pas avec leur attente. Cela ne collait pas pour eux. Mais c'est un témoignage, comme le Seigneur le souligne, à la lenteur du cœur humain à comprendre ces choses. Voilà ces disciples qui avaient vu quelque chose dans le Seigneur Jésus-Christ, qui croyaient dans le Seigneur Jésus-Christ, qui ont entendu le témoignage des femmes, et que font-ils? Ils quittent Jérusalem. Ils s'éloignent de Jérusalem. Ils rentrent chez eux abattus, défaits. Mais par les questions que le Seigneur Jésus-Christ a posées et par leurs réponses, Jésus a mis en évidence l'ignorance, neuvième mot pour les enfants, l'ignorance de ses disciples, une ignorance qui est la cause de leur détresse. Et Jésus les reprend. Verset 25. « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Jésus va les enseigner. Il va corriger leur ignorance. Et le moyen qu'il utilise, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Il y a deux grandes leçons concernant la parole de Dieu, concernant la Bible, que nous pouvons retirer de ce passage. La première leçon, c'est que la parole, la Bible, la parole de Dieu, est au centre, dixième mot, est au centre de la vie chrétienne. S'il y avait une personne qui n'avait pas besoin de la Bible, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il est la parole. Il est la révélation de Dieu. Mais durant toute sa vie, pendant la tentation, pendant son ministère public, pendant son enseignement, il va s'appuyer sur la révélation de Dieu que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que c'est la révélation de Dieu. C'est la parole autoritaire, c'est la révélation autoritaire de Dieu. Toute écriture, dira Paul à Timothée, de Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que c'est une révélation que la bouche même de Dieu a soufflée. Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Comme le dit l'apôtre Paul, elle est utile de Timothée 3,16 et 17. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce qui veut dire que si nous voulons avancer dans la vie chrétienne, si nous voulons apprendre au sujet de Dieu, au sujet du Seigneur Jésus-Christ, au sujet de nous-mêmes, au sujet du salut, c'est à l'Écriture qu'il faut venir. C'est à l'Écriture que nous devons revenir sans cesse et la recevoir comme Jésus l'a reçue. Il l'a reçue comme étant la parole de Dieu, cette parole qui ne change pas. Matthieu 5, verset 18, « Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. » Il l'a reçue comme étant la parole inchangeable, celle qui ne change pas, celle qui est la même, cette autorité de Dieu, cette révélation de Dieu. Et il faut la méditer, la ruminer, la creuser pour en recevoir instruction. Elle est au centre parce qu'elle est l'autorité, elle est la révélation de Dieu. Et Jésus même, après sa résurrection, s'appuie sur la parole. Il s'appuie sur cette parole. La deuxième chose que nous retirons, c'est le sujet de la Bible, de la parole de Dieu. Versets 26 et 27, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et si la parole de Dieu aborde pratiquement, aborde tous les aspects de la vie, le sujet principal est Jésus-Christ. Onzième mot pour les enfants. Le sujet principal de l'Ancien et du Nouveau Testament est Jésus-Christ. Et Jésus reprend ses disciples. Il leur dit, mais tout l'Ancien Testament parle de la nécessité pour le Rédempteur de souffrir et de mourir. Il commence par Moïse, il commence par Genèse, chapitre 1. Et peut-être est-ce qu'il a utilisé les mêmes mots que Jean a utilisés au début de son évangile. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais commençons par Genèse chapitre 1 et continuant par les psaumes, les prophètes. Jésus va montrer que toute la parole, tout l'Ancien Testament parle de lui, parle de l'œuvre qu'il va accomplir et qu'il a accompli, et parle de sa personne. La clé de l'Ancien Testament, la clé de toute la Bible est le Seigneur Jésus-Christ. Si on lit l'Ancien Testament sans voir le Seigneur Jésus-Christ, on ne lit pas l'Ancien Testament correctement. L'Ancien Testament utilise des ombres, utilise des images, utilise des ombres. Le Nouveau Testament parle de la réalité de Christ comme étant venu et ayant accompli ce salut. Mais toute la parole parle du Seigneur Jésus-Christ. Jésus se présente comme étant le compagnon de route, celui qui encourage ses disciples. Il est aussi venu comme étant celui qui enseigne et qui s'appuie sur la parole et sur elle pour montrer ce que l'Écriture dit. Troisième point, Jésus se présente comme étant celui qui apporte la révélation. Douzième mot, il apporte la révélation. Lisons que les versets 29, les disciples arrivent l'endroit où ils allaient rester. Et ils insistent pour que le Seigneur reste avec eux. Et nous lisons au verset 30, « Pendant qu'il était avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. » Alors ce verset, bien sûr, doit nous faire penser à ce qui s'est passé lors de la scène, lors du repas avec les disciples dans la chambre haute, avant la crucifixion. Mais cela doit aussi nous amener à réaliser que c'est le type de communion que le peuple de Dieu va avoir avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. C'est lorsque Jésus rompt le pain, lorsqu'il rend grâce et qu'il rompt le pain, que ce repas devient un moment de communion. Treizième mot pour les enfants. Les disciples n'avaient pas encore compris. Mais là, Jésus se révèle. Il se révèle à eux. Et les écailles qui étaient sur leurs yeux tombent et ils voient. Ils voient le Seigneur Jésus-Christ avec les yeux de la foi. Ils comprennent, et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous l'avons lu en Jean 14, mais si nous avions continué, nous aurions pu le dire au Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. C'est l'œuvre principale de l'Esprit. Il vient révéler Christ. Il révèle le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient vers les siens pour se faire connaître, mais aussi pour révéler le Père. C'est ce qu'il a prié en Jean 17, verset 3. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus vient à la rencontre de ses disciples et il vient à notre rencontre afin que nous le connaissions, lui, et qu'au travers de lui, nous connaissions, 14e mot pour les enfants, nous connaissions le Père. C'est ça, la vie éternelle. Il se révèle et il se fait connaître. Et ce qui frappe ici, dans la réaction de ses disciples, c'est non seulement ils réalisent qu'ils ont été avec le Seigneur Jésus, qu'ils ont été en présence du Seigneur Jésus-Christ, mais ils parlent aussi de l'Écriture. Ils ne sont pas seulement étonnés d'avoir marché avec le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, mais ils sont étonnés maintenant de comprendre la révélation biblique, 15e mot pour les enfants, au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Et maintenant, leurs yeux ouverts, ils réalisent, ils comprennent ce que l'Écriture avait annoncé. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient par son Esprit nous rencontrer, il éclaire sa parole, les écailles tombent de nos yeux et notre cœur brûle en nous. Lorsque nous comprenons, lorsque nous saisissons cette parole, c'est l'œuvre aujourd'hui de l'Esprit de Dieu. L'Esprit que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé et par lequel il vient habiter en nous. L'Esprit qui révèle Christ et qui nous aide à comprendre les Écritures. Et en comprenant les Écritures au sujet de la personne et de l'œuvre de Christ, fait jaillir en nous ce feu dévorant, ce feu dans notre cœur, un feu de joie, un feu d'amour débordant, un feu de zèle pour lui. Quelle est la conséquence? Ces disciples qui partaient, qui quittaient Jérusalem, abattus, retournent à Jérusalem. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Les disciples, quittant Jérusalem, ne comprenant pas ce qui s'était passé, s'en retournent maintenant à Jérusalem, plein de zèle, plein de joie, plein d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ, et vont faire partie de ceux qui ont bouleversé, 16e mot, bouleversé ce monde. Leur expérience n'est pas une expérience charnelle, comme le pensent certaines personnes, mais comme Paul le dira en Romains chapitre 14 et verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà ces disciples animés d'une grande joie, d'un amour pour le Seigneur Jésus-Christ, d'un zèle débordant, retournent à Jérusalem pour vivre et avec les autres disciples et être ceux qui, par leur témoignage et l'annonce de la parole, ont bouleversé le monde. Voilà le Seigneur Jésus qui se révèle qui se révèle à ses disciples. Il est le compagnon de route qui est là pour, qui vient pour encourager ses disciples. Il est celui qui enseigne, qui apporte un enseignement à partir de la parole, qui explique la parole et qui explique que la parole parle de lui. Il est celui qui apporte la révélation. Que aujourd'hui nous soyons conscients que si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là physiquement, il est avec nous, avec son peuple, par l'Esprit Saint. Il marche avec son peuple, il enseigne son peuple, il révèle ce que la parole dit à son peuple. Et que nous en soyons conscients et qu'il fasse aussi de nous ce qu'il a fait de ses disciples, que par nos vies, notre témoignage, nous aussi nous soyons de ceux qui bouleversent ce monde. Et que sa parole et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soient exaltés. Que Dieu nous aide à saisir, à comprendre cela et qu'il bénisse sa parole encore à nos cœurs ce matin. Amen.